Les séminaires du Collège de France.
Eh bien, pour cette dernière séance de série de séminaires, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Rich de l'Université de Clermont-Ferrand, qui va parler de catégories d'écart affines et applications de théorie de représentation.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis bien sûr très honoré d'être là. Je vais parler de travaux avec Roman Bezokhalnikov qui concernent la catégorie d'écart affine. Et expliquer un petit peu pourquoi on s'intéresse à ces questions-là. Donc c'est des travaux dont je parle depuis un certain temps, qui avancent lentement mais sûrement, et il y a une partie qui est achevée, et la partie finale devrait, si tout se passe bien, s'achever prochainement. Donc je vais d'abord expliquer, avant de parler de catégories de queue affine, je vais parler un petit peu de l'algèbre de queue affine. Donc, je vais commencer par introduire les notations. Ce que je vais raconter aura deux côtés qui seront duos au sens de Langlands. Et donc, j'aurai un côté constructible. Donc, il y a le côté constructible. Et le côté cohérent, oui, qui aura aussi un aspect théorie de représentation. Alors, du côté constructible, j'ai F, un corps algébriquement clos de caractéristique P. Donc, c'est le corps sur lequel j'aurai mes objets géométriques. Et G sera un groupe réductif connexe sur F. Et je vais choisir un sous-groupe de Borel B. Et un tore maximal T. Du côté cohérent, là j'aurai un corps qui sera noté K, qui est aussi algébriquement clos. Et lui il sera de caractéristique L, qui est différente de P et qui sera supposé positif pour la. Enfin, le cas intéressant pour moi c'est celui des. Où L est positif, et G-Chet, ce sera le groupe réductif sur K, qui est dual de G, au sens de Langlands. Et donc dedans, je vais aussi avoir un sous-groupe de Borel, de B-Chet, et un tore maximal T-Chet. Et puis, j'aurai besoin de quelques données combinatoires, et encore une fois, il y en aura. Donc, du côté constructible, je vais m'intéresser au réseau des co-caractères. Donc, les morphismes de groupe, du groupe multiplicatif vers T, et dedans, je vais avoir le système de racines. Et mon choix de Borel me donne des racines positives. Pardon, j'ai un système de coracines dans les co-caractères, pardon. Et j'ai un système de coracines positives et les coracines simples associées. Et puis, du côté cohérent, là, je vais m'intéresser au caractère de T-Chetch et une partie de la définition du dual de Langlands, c'est qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même réseau. Ça, c'est les caractères de T-Chetch, et dedans j'ai les racines. Bon, je ne vais pas introduire de notation parce qu'en fait les racines de G-Chetch sont les coracines de G, et du coup là, les coracines positives me donnent un système de racines positives pour G-Chetch et des racines simples. Et ensuite j'ai W, le groupe de Weyl. Alors en fait, c'est le groupe de Weyl de G, donc le normalisateur du tore divisé par le tore, et ça s'identifie de façon canonique au même groupe pour le dual, donc c'est un groupe fini, et c'est un groupe qui a... C'est le groupe de Weyl, et il a un système naturel de générateur donné par les réflexions simples. Donc elles sont en bijection avec les racines ou les coracines simples. Et W, avec ce choix de générateur, est un système de Coxeter. Et puis, alors je vais m'intéresser au groupe de Weyl affine étendue, Wx. C'est le produit semi-direct de W avec les co-caractères de T ou, de façon équivalente, avec les caractères de T-Chetch. Et donc ça, c'est le groupe de Weyl affine étendue. Alors ce groupe, c'est presque un groupe de Coxeter. C'est pas un groupe de Coxeter, mais c'est presque un groupe de Coxeter. C'est-à-dire qu'on a un système d'éléments SAF dans Wext, tel que si on prend le sous-groupe engendré par ces éléments-là, donc ça engendre pas Wext, mais si on prend le sous-groupe engendré par rapport à ça, ça nous forme un système de Coxeter. Et donc, puisqu'on a un système de Coxeter, on a une fonction de longueur sur le sous-groupe engendré par SAF, et cette fonction de longueur s'étend à WX. S'étend de façon naturelle, avec toutes les propriétés qu'on veut, à WX. Et donc, on peut associer à... c'est suffisant pour associer à ces données une algèbre de Hücke que je vais noter Hx. C'est l'algèbre de Hücke associée à Wx. Alors je ne vais pas rappeler la définition explicitement, mais c'est une Z, donc c'est une algèbre sur l'anneau des polynômes de Laurent en une variable V à coefficient entier. Donc cette algèbre, elle est libre sur ses coefficients, elle a une base HW paramétrée par le groupe de Weyl affine étendue. Et si on spécialise V en 1, autrement dit si on regarde le quotient par l'idéal engendré par V-1, on trouve l'algèbre de groupe du groupe de Weyl affine étendue, de telle sorte que la classe de l'élément W correspond à l'élément W dans l'algèbre de groupe. Et donc, on voit l'algèbre de Hücke affine étendue comme une déformation de l'algèbre de groupe de Wx. Bon, et cette algèbre apparaît de façon naturelle dans plusieurs contextes en théorie de représentation et en géométrie. Donc, je vais rappeler ça. Et donc, l'objet principal de cet exposé, c'est une version catégorique de cette algèbre qu'on va appeler la catégorie de Hücke. Et donc chacun des contextes dans lesquels ça apparaît, dans chacun des contextes que je présentais, donc cette algèbre apparaît d'abord de façon pour des raisons combinatoires, enfin de façon algébrique, et puis ensuite on peut, je vais expliquer ensuite que tout ça dans un contexte catégorique. Donc le premier contexte, c'est les groupes pléiadiques. Alors dans ce contexte-là, on a F un corps local et OF l'anneau des entiers. Et je vais noter Q le cardinal du corps résiduel. Et alors, je vais noter G indice F, un groupe réductif scindé. Scindé sur F, donc, mais il est aussi défini sur l'anneau des entiers. Et il a il est de même type que G, c'est-à-dire qu'il a le même système, la même donnée radicielle que mon groupe G. Et donc, je m'intéresse au F point de ce groupe. Donc ça contient les OF points, et puis dedans on a un sous-groupe d'Iwaori. Et on s'intéresse à l'algèbre CC de GF de F, coefficienté pari des deux côtés. C'est l'algèbre des fonctions localement constante. Sur mes F points, qui sont I bi-invariantes. Et à support compact. Et c'est une algèbre pour un certain produit de convolution. Et Iwari et Matsumoto ont décrit cette algèbre. Et en fait, l'ont décrit en termes de l'algèbre que j'ai introduite précédemment. Cette algèbre se trouve être une spécialisation de l'algèbre de Hecke affine, étendue. La spécialisation, c'est-à-dire qu'on tensorise avec C, ici V s'envoie sur Q puissance moins 1,5, où le Q était donc le cardinal du corps résiduel. Et voilà, et en fait c'est le premier contexte dans lequel cette algèbre-là est intervenue. Et c'est intéressant parce que cette algèbre-là, elle contrôle la catégorie des représentations du groupe p-adic qui sont engendrées par leur sous-espace stable par l'Iwari. Et donc, comprendre cette algèbre, ça permet de comprendre une classe importante de représentations du groupe p-adic. Et ce résultat de Iwari Matsumoto, qui date des années 60, dit que c'est la même chose de comprendre un certain module de dimension finie, certaines représentations de dimension finie de l'algèbre de Hecke affine. Voilà. Alors ensuite, le deuxième contexte dans lequel ça apparaît, c'est un contexte plus géométrique. Alors pour ça, je vais noter n tilde la résolution de Springer. Donc la résolution, cette fois, c'est la résolution de Springer de G dual. C'est le cotangent de la variété des drapeaux. Et on a une application naturelle de n tilde vers le dual de l'algèbre de Lie de Jechetch. Et on va s'intéresser à la variété de Steinberg, qui est le produit fibré de n tilde avec lui-même au-dessus du dual de l'algèbre de Lie. Et pour cette variété-là, on a un théorème qui est dû à Kajan-Lustig et en parallèle à Ginsburg, qui dit qu'on a un isomorphisme d'algèbre entre l'algèbre de Hecke affine étendue et la catégorie Jechetch croix K étoile et Q variante de la variété de Steinberg. Donc c'est un isomorphisme d'algèbre pour un certain produit de convolution sur la catégorie. Donc ici c'est la catégorie, c'est la catégorie algébrique, donc le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux cohérents et cuivariants sur cette variété-là.
Donc Ginsburg, il n'y avait pas une hypothèse de simplement connaître ?
Oui, alors là je suis pas très précis sur les hypothèses. Effectivement, il vaut peut-être mieux supposer que. Alors, c'est le Jechetch, un sous-groupe dérivé simplement connexe, ce genre de choses, mais je vais ignorer ces choses-là. Et donc, la raison pour laquelle ces gens-là s'étaient intéressés à cette question, c'est que, en fait, à partir de cet isomorphisme, il y a des méthodes géométriques qui permettent de classifier certaines familles de représentations des algèbres de Hecke affine, de l'algèbre là, HX, et en particulier celles qui apparaissent ici, celles pour lesquelles V est spécialisée en Q puissance moins 1,5, et ça permet donc de classifier ces représentations de l'algèbre de Hecke affine étendue, ou de façon équivalente de cette algèbre-là. Et ça permet de les classifier en termes galoisiens pour le groupe dual. et ça permet de résoudre un cas important des conjectures de Langlands et de démontrer ce qui s'appelait la conjecture de Deligne-Langlands, qui a été démontrée par Kajan Lustig.
Le K, c'est G-Tchèque, je crois que
K étoile. Alors, c'est écrit explicitement pour C. Ça marche pareil pour encore le corps sur lequel on travaille. Il faut peut-être exclure des petites caractéristiques. C'est pareil, je ne suis pas très précis là-dessus. Bon, c'est écrit dans la littérature uniquement dans le cas complexe, mais c'est complètement algébrique, ça ne dépend pas du corps. Ça dépend, sauf éventuellement en mauvaise caractéristique où il y a peut-être des subtilités qui se passent. Mais... Et alors, donc ça, c'était le deuxième contexte. Et enfin, le troisième contexte, c'est en théorie des représentations. Et là, je vais noter H, un groupe réductif, bon, toujours connexe, sur K, tel que le décalé de Frobenius est le groupe du Ajetchetch. Donc ce groupe, il est isomorphe à Ajetchetch, mais de façon non canonique, et je n'ai pas envie de les identifier, j'ai envie de le voir comme un groupe un peu différent. Et là, je vais supposer que L... Là, j'ai besoin pour que ce que je disais ait un sens, il faut que L soit plus grand que le nombre de coxeters de H, qui est le même que celui de G. Et dans ce cas-là, je m'intéresse à ce que je vais noter rep 0 de G, donc le bloc principal étendu, c'est la sous-catégorie de CERN engendrée par les modules simples. Donc dans ce cadre-là, la sous-catégorie de CERN de la catégorie de la représentation algébrique de dimension finie de H. Est engendré. Donc, les objets simples de la catégorie d'appréhension algébrique des dimensions finies sont paramétrés par les poids dominants. Et je prends la sous-catégorie engendrée par les modules simples de plus haut poids qui est de la forme W.0, donc pour l'action point donc, dilatée par L. Et W, c'est un élément du groupe de Weyl affine étendue. Donc, voilà. Donc c'est le bloc de la représentation triviale. Enfin, alors, c'est un peu plus gros que le bloc. Ça aurait été le bloc de la représentation triviale si j'avais pris le groupe de Weyl affine. Là, j'ai pris le groupe de Weyl affine étendue, donc c'est un tout petit peu plus gros, mais ça, c'est ce qui apparaît naturellement dans ce contexte. Et je m'intéresse au groupe de Grothendieck de cette catégorie. Et ce groupe de Grothendieck, il s'exprime encore une fois, il est canoniquement isomorphe à un certain quotient de l'algèbre de Hecke affine étendue. Alors ici, HF, c'est l'algèbre de Hecke du groupe de Weyl fini, l'algèbre de Hecke de W. Et ici, ce Z, là, je le vois comme module à droite sur l'algèbre de Hecke de W, avec V qui s'envoie sur 1 et HW qui s'envoie sur moins 1 puissance longueur de W. Donc c'est le module signe pour cette sous-algèbre de HX. Et ensuite, j'induis à HX. Ça me donne un module à droite qui s'identifie canoniquement à ce groupe de Grothendieck, et sous cette identification donc c'est compatible avec l'action de l'algèbre de Hecke affine étendue au sens où ici la multiplication par l'élément HS plus V qui est l'élément de la base de Kajan-Lustig associée à S correspond à l'action d'un foncteur de croisement des murs. Qui sont des foncteurs très importants en théorie de présentation où on translate vers un mur, puis on revient au caractère initial. Donc voilà les trois endroits, trois exemples de contexte où cette algèbre apparaît. Et maintenant, je vais expliquer que donc dans chaque cas, cette histoire peut être vue comme la trace de quelque chose qui se passe au niveau des catégories. Et à la fin, j'expliquerai pourquoi en fait ces trois contextes, les trois incarnations de l'algèbre de Hecke affine étendue, les trois incarnations catégoriques de l'algèbre de Hecke affine étendue qui apparaissent, sont en fait équivalentes. Donc d'abord, il faut que j'explique comment on catégorifie tout ça. J'aurais peut-être dû expliquer avant que ce bloc principal là, c'est quelque chose c'est l'objet qui m'intéresse le plus dans cette histoire, et que comprendre les représentations simples dans ce bloc, c'est un des problèmes centraux de la théorie des représentations des groupes réductifs en caractéristiques positives. Donc voilà, l'idée de la suite, c'est qu'en fait ces trois choses là sont des traces combinatoires d'incarnation catégorique de la jette de Hecke affine étendue qui sont toutes les mêmes en fait. Alors pour les versions catégoriques, je vais aller dans l'autre sens, je vais commencer par la théorie des représentations. Alors pour ça, la version catégorique va avoir... donc, ce qui nous intéresse, c'est les représentations du groupe H, mais on va passer aux représentations de l'algèbre de Lie, en fait. Donc, je vais noter H, l'algèbre de Lie de H. Et dans l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie, j'ai deux sous-algèbres centrales. Alors, d'abord, j'ai la partie... ZHC, donc c'est la partie qui ressemble à ce qui se passe qu'on a en caractéristique 0. Donc c'est ce qu'on appelle le centre de la riche Chandra. Et par définition, c'est les invariants du groupe dans la chaîne enveloppante pour l'action. C'est un H pour l'action adjointe. Et comme dans le cas de la caractéristique 0, ça s'identifie aux fonctions sur le dual de l'algèbre de Lie d'un tore par l'action décalée du groupe de Weyl. Donc TH, c'est l'algèbre de Lie du tore maximal correspondant à Tchetch. H, c'est un groupe dont le décalé de Frobenius est Tchetch. Et donc j'ai un tore maximal dedans, je prends son algèbre de Lie, c'est ce que je note TH. Donc ça, c'est une première partie du centre, et il y a une deuxième partie dans le centre qui s'appelle le centre de Frobenius. Qui est, lui, spécifique à ce qui se passe en caractéristique positive. Et c'est la sous-algèbre engendrée par les éléments de la forme x puissance L moins x crochet L pour x dans H. Donc ici, x puissance L, c'est la puissance Lm dans l'algèbre enveloppante de H. Et ce x crochet L, c'est la puissance Lm restreinte dans l'algèbre de Lie. Donc x crochet L, c'est encore un élément de l'algèbre de Lie. Et ces différences, c'est bien connu que c'est central. Et ça forme une sous-algèbre qui s'identifie naturellement aux fonctions sur le décalé de Frobenius de H étoile, du dual de l'algèbre de Lie. Donc c'est une algèbre de polynômes, c'est équivalent à une algèbre de polynômes. Et alors, je vais m'intéresser à une certaine algèbre que je vais noter U0 chapeau, 0 chapeau. Alors, c'est défini de la façon suivante. Je pars de U de H, tenseur, l'algèbre opposée, au-dessus du centre de Frobenius. Et je vais compléter, entre guillemets. Alors, je ne vais pas compléter pour de vrai. En fait, je vais tensoriser avec un complété. Je vais tensoriser au-dessus de, du centre de Reichen, enfin, la, la, ce qui reste du... ce qui provient du centre de Ray-Chandra des deux côtés, donc qui me fait une, les fonctions sur T étoile sur W croix T étoile sur W avec je vais tensoriser avec le complété de cette algèbre par rapport à l'idéal maximal correspondant à, au caractère 0. Je vais noter ça comme ça. Ouais. Ça, ça veut dire que je complète par rapport à l'idéal maximal de 0. Enfin, de 0 de chaque côté. Donc je pense à ça comme une complétion. Enfin donc c'est, enfin faire attention parce que l'algèbre que j'ai à gauche, elle n'est pas définie sur sur ce, cette sous-algèbre là. Et donc c'est pas la même chose de compléter ou de tensoriser avec le compléter du sous-machin. Et ce qui marche bien, c'est de ce qui techniquement marche bien, c'est plutôt de tensoriser avec le compléter du sous-truc. Voilà. Alors quand je dis sous-truc, ça c'est pas un sous-truc là-dedans, enfin, parce que j'ai pas. Bon, si on veut avoir un sous-truc, il faut faire attention à prendre un produit fibré, mais bon, parce que la définition que j'ai donnée est correcte. Et donc en particulier, le fait de compléter avec ce, enfin, tensoriser avec ce compléter, ça. Bon, c'est bien compatible avec l'action de H. Donc je m'intéresse à l'action diagonale de H. Ici, et j'obtiens, donc j'ai toujours une action de H, et c'est toujours un H module algébrique. Et donc je vais m'intéresser à des modules équivariants pour cette algèbre, et je vais noter HC 0 chapeau, 0 chapeau, donc HC c'est pour Ray-Chandra, ce sera des, ce que je vais voir ça comme des bimodules d'Ray-Chandra, et donc c'est la catégorie des U 0 chapeau, 0 chapeau module, H équivariant. Et donc c'est certains bimodules sur U de H. Et je veux une condition de type Ray-Chandra. Et cette condition, c'est dire que la différentielle de l'action telle que la différentielle de l'action de H. Coïncide avec la restriction de l'action de l'algèbre via le morphisme induit par le morphisme de U de H dans U de H tenseur U de H hop au-dessus du centre de Frobenius qui a x associe x tenseur 1 moins 1 tenseur x. Autrement dit, j'ai un bimodule, donc j'ai une action adjointe de l'algèbre de Lie, et je veux que l'action adjointe soit la différentielle de l'action du groupe. Et ça me donne une catégorie monoïdale. Et alors le lien avec ce que j'avais raconté avant, c'est que en fait cette catégorie monoïdale, donc, cette algèbre, cette catégorie agit sur le bloc principal étendu de H, parce que les représentations de H, je peux les voir comme des modules équivariants sur l'algèbre de Lie. Enfin, je prends juste la différentielle de l'algèbre de groupe, ça me donne une action de l'algèbre de Lie. Et donc, ces représentations du groupe, c'est des représentations équivariantes de l'algèbre de Lie, telles que l'action de l'algèbre de Lie, c'est juste la différentielle de l'action du groupe. Et donc, je peux tensoriser. Donc, j'ai une action des bimodules sur les modules qui m'induit une action de ces bimodules de Ray-Chandra sur mon bloc principal étendu. Et en fait, on avait utilisé cette action-là dans un travail précédent avec Roman Bezokhovnikov pour démontrer une conjecture avec Williamson, donc j'avais formulé avec Jordi Williamson sur une action de la catégorie de Hecke sur catégorie de Hecke affine sur le bloc principal étendu. Alors qui disait, en gros, cette conjecture disait que ce que j'ai raconté avant se relève au niveau catégorique. Alors la catégorie de Hecke qu'on considérait dans cette conjecture avec Williamson, c'est la catégorie de Hecke diagrammatique. Donc c'est une catégorie qu'on peut définir par générateur et relation en termes de certains diagrammes planaires. Notre conjecture, c'était que cette catégorie agit sur le bloc principal, ce qui a des implications intéressantes sur la combinatoire de la théorie des représentations. Et en fait, pour démontrer cette conjecture, ce qu'on a fait avec Roman Bezokhovnikov, c'est réaliser cette catégorie de Hecke affine dans cette catégorie HC 0 chapeau 0 chapeau et utiliser l'action naturelle qu'on a ici. Donc en particulier cette action elle réalise en particulier les functeurs de croisement des murs. Sont les functeurs qui apparaissaient dans ce que j'avais raconté tout à l'heure.
Ils sont donnés par des bimodules particuliers, c'est ça?
Oui, donc les functeurs de translation sont donnés par certains bimodules, et donc en particulier les functeurs de croisement des murs qui sont décomposés.
Et pour la catégorie diagrammatique, c'est la même chose. À chaque diagramme, on associe un bimodule, ça marche comme ça?
Alors c'est pas complètement explicite, mais on a un functeur monoïdal de la catégorie diagrammatique vers cette catégorie-là, qu'on sait construire en utilisant la description de AB, donc une description en termes de bimodule. C'est pas complètement explicite, mais on a un functeur monoïdal. Donc ça, c'est la version catégorique en théorie de représentation. Et maintenant, je vais passer à la version catégorique en géométrie. Alors pour ça... dans ce que j'avais raconté avant, ça faisait intervenir la résolution de Springer. Alors en fait, la géométrie devient un peu plus sympathique quand on change ça et quand on remplace la résolution de Springer par sa version Grothendieck. Donc je vais noter ça G tilde, alors plutôt G tchetch tilde, parce que c'est associé au groupe G tchetch. Alors c'est un fibré vectoriel au-dessus de l'oralité de drapeau pour G-Tchetch qu'on obtient en induisant la B représentation qui est donnée par le dual de G-Tchetch sur N-Tchetch où N-Tchetch c'est la jette de Lie du radical unipotent de B-Tchetch. Donc G-Tchetch, c'est un fibré vectoriel au-dessus de G-Tchetch sur B-Tchetch qui contient N tilde. Et donc on va utiliser une autre version de la variété de Steinberg. Pour laquelle je vais donner un nom cette fois, que je vais noter ST, qui est le produit fibré comme tout à l'heure. Mais cette fois pour G-Tchetch tilde. Encore une fois, on a une application naturelle vers le dual de la jette de Lie. En fait, cette version-là a la même catégorie que celle que j'avais utilisée tout à l'heure. Mais géométriquement, elle est un peu plus sympathique. Et alors encore une fois, ici, je vais devoir passer à une espèce de complétion que je vais noter ST chapeau. Et ce ST chapeau, c'est obtenu en prenant le produit fibré de ST avec le au-dessus du dual de l'algèbre de Lie du Thor. Donc T-Chetch, c'est l'algèbre de Lie de T-Chetch. Et je vais prendre le produit fibré avec le spectre de la complétion par rapport au caractère 0, encore une fois. Ça, c'est le spectre de la complétion en 0, 0. Et maintenant, je vais considérer... Donc, l'incarnation catégorique de l'algèbre de Hecke que je vais considérer, c'est la catégorie... des faisceaux cohérents G-Chetch équivariants sur ce schéma ST chapeau. Et encore une fois, c'est une structure de catégorie monoïdale. Il y a un certain produit de convolution. Et alors, par rapport à ce que j'avais raconté tout à l'heure, il n'y a pas l'action du groupe multiplicatif. C'est lié au fait, enfin, c'est techniquement lié au fait que j'ai ce procédé de complétion qui n'est pas vraiment compatible avec l'action du groupe multiplicatif. Donc, voilà, je l'oublie. Bien. Et donc je vois ça comme une version catégorique de l'algèbre de Hecke affine. Et enfin, j'ai pour les groupes péadiques, donc dans le monde péadique, alors là, Donc là, je ne vais pas considérer des catégories de représentation de groupes péadiques. Je vais passer plutôt dans un cadre plus géométrique et je vais passer à des faisceaux pervers sur des variétés de drapeaux affines. Donc pour ça, j'introduis LG, le groupe des lacets de G, et dedans, j'ai un sous-groupe d'Iwaori, IW. Et je vais considérer le radical pro-unipotent du sous-groupe IW. Et puis, donc j'ai la variété de drapeau affine FL, qui est le quotient de LG par IW. Et puis, je vais m'intéresser à... Donc ça, c'est la variété de drapeau affine. Et je vais m'intéresser à un torseur au-dessus de cette variété qui est FL tilde, qui est LG quotienté par IWU. Et alors je vais noter D indice IWU, IWU. Donc c'est une certaine catégorie de faisceaux sur ce FL tilde. Donc c'est la sous-catégorie de la catégorie IWU équivariante des K-faisceaux constructibles sur FL tilde qui est engendré par les tirés en arrière d'objets de la catégorie dérivée Iwaori équivariante de FL. Donc, autrement dit, je prends des complexes sur ce FL tilde qui sont équivariants pour IWU et qui sont monodromiques pour l'action du Thor. De T-Chetch. Donc je prends tout ce qui est engendré par les choses qui. Cette catégorie engendrée par les choses qui sont équivariantes pour les Iwaori, autrement dit. Donc ça, c'est encore une catégorie monoïdale pour un certain produit de convolution. Euh, Et je vois ça comme une incarnation catégorique de l'algèbre que j'avais introduite tout à l'heure, au sens de la correspondance faisceau-fonction. Donc j'ai remplacé des fonctions par des complexes de faisceaux sur un objet qui, au moins moralement, correspond à mon groupe péadique. Et alors cette catégorie-là, donc il y a encore dans ce contexte-là, il faut passer par un procédé de complétion. Donc je ne vais pas dire grand-chose, mais je vais noter des chapeaux IWU. IWU, c'est la catégorie complétée de Yun, associée à ce contexte. Donc Joey Yun a développé un formalisme général qui permet de... dans un contexte géométrique particulier, mais qui comprend ce qu'on considère ici, produit une catégorie, une certaine catégorie de pro-objets qui a un meilleur comportement. Donc typiquement ici, j'ai dit que c'est une catégorie monoïdale, mais c'est une catégorie monoïdale qui n'a pas d'objet unité. Justement, le procédé de Yun, ça crée un objet unité. Donc dans la version complétée, j'ai bien un objet unité. Et c'est avec ça que je vais travailler. Et donc finalement, je peux énoncer le théorème principal du travail avec Bezokhalnikov. Qui dit que les trois catégories qui sont apparues là sont toutes équivalentes. Donc il existe des équivalences de catégories monoïdales. Entre la catégorie des chapeaux Iwari U, la catégorie dérivée de mes bimodules de Harish-Chandra et la catégorie dérivée des faisceaux cohérents chez Tchatch et Q-variant sur la version complétée de la variété de Steinberg. Voilà, donc je vais faire quelques commentaires sur cet énoncé. Alors d'abord pour la deuxième équivalence, il y a une version alternative de ce qu'on fait qui a été trouvée par Ivan Lozev. Donc Lozev a un article où il donne une autre preuve de l'équivalence à droite. Version alternative de la deuxième équivalence par Ivan Lozev. Alors une deuxième chose, c'est que techniquement c'est important dans la preuve de passer aux versions complétées, mais a posteriori on peut oublier les complétions et revenir à des choses un peu plus classiques. Complétions juste en restreignant à certaines sous-catégories, on obtient donc pour la catégorie D IWU, c'est équivalent à ce qu'on note DB HC 0 chapeau 0 chapeau nil. Donc c'est la partie sur laquelle cette algèbre-là agit via un quotient de dimension finie. Et puis, au niveau des faisceaux cohérents, on obtient la catégorie d'AIV, des faisceaux cohérents et Q-variants sur la variété de Steinberg, qui sont supportés sur la préimage, supportés au sens ensembliste, sur la préimage du cône nilpotent, qui est exactement l'autre version de la variété de Steinberg que j'avais introduite précédemment. Et donc dans cet énoncé-là, il n'y a plus rien de complété qui apparaît, et c'est des équivalences qui sont monoïdales, sauf au sens où c'est compatible avec, où on a des produits de convolution et tout est compatible avec ce produit-là. Par contre, on n'a pas d'objet unité, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Dans aucune de ces catégories-là, on a d'objet unité. Et enfin, un mot sur la stratégie. La stratégie de preuve, c'est preuve à la Zorgel. C'est-à-dire qu'on veut considérer, on veut relier deux. Bon, ici, on a trois contextes. Mais bon, alors ces deux, cette équivalence-là, on peut la démontrer a priori assez directement. Mais on veut relier au complexe. Mais donc, il y a ce contexte-là, géométrique et théorie d'apprentation qui vont ensemble. Et puis, il y a le côté constructible qui est très différent. Et pour relier ces deux contextes, on passe par un contexte intermédiaire qui se décrit en termes d'une certaine catégorie de bimodules de Zorgel. Alors, ce n'est pas des vrais bimodules de Zorgel, mais c'est un truc qui y ressemble. Et puis, on décrit chacun des deux côtés, enfin, on fait des équivalences de chacun des deux côtés avec ces objets à la Zorgel. Et on remarque à la fin que c'est les mêmes des deux côtés. Donc, on identifie les deux côtés en termes de bimodule de Zorgel. Alors, pour le côté constructible, c'est la partie qui est disponible. Donc, c'est tout. On a deux articles dans lesquels on obtient une description de cette catégorie, description des faisceaux pervers basculants dans ces catégories en termes de bimodules de Zorgel, ce qui est suffisant pour reconstruire toute la catégorie. Et donc les outils principaux, c'est l'équivalence de cet aquet géométrique. Alors, cet aquet géométrique, ça relie les faisceaux pervers L plus G et Q variant sur LG sur L plus G, donc la Grassmannienne affine de G, un coefficient dans K, et les représentations de G de Schetch. Donc, ici, c'est vraiment G de Schetch, c'est pas H. H, il apparaît dans les bimodules. Dans les bimodules de Harishchandra, mais ici c'est Gchetch qui apparaît. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Et puis, et les functeurs centraux de Gatesbury, le functeur central de Gatesbury. Qui est un outil qui permet, entre guillemets, de remonter de façon intelligente des faisceaux sur la Grassmannienne affine en des faisceaux sur sur la variété de drapeau affine. Du côté géométrique, donc ça c'est la partie qu'on est en train de finir d'écrire, ça repose sur la théorie de la localisation en caractéristiques positives. C'est des travaux de. Donc, ça repose sur les travaux de Bezokalnikov, Mirkovitch et Rouminin. Qui datent d'une vingtaine d'années maintenant. Un analogue pour des coefficients en caractéristiques positives des constructions de la théorie de la localisation de Bellinson-Bernstein. Donc ça relie des démodules à des représentations. Et donc ce côté-là, cette partie-là est parallèle à ce qui se passe en caractéristiques 0. Mais ensuite, le traitement, une fois qu'on est arrivé aux démodules, est très différent en caractéristiques 0 et en caractéristiques positives. Et en caractéristique positive, on a une machinerie qui nous permet de passer des démodules aux faisceaux cohérents. Et en fait, l'équivalence qui est ici, là, c'est une version un peu plus sophistiquée. Mais bon, c'est une version de ce qui est fait par Bezokalnikov, Mirkovitch et Rouminin. Donc eux, ils travaillaient avec des modules sur la géométrie enveloppante. Nous, on travaille avec des bimodules. Mais il reliait des modules, des catégories de modules à des catégories de faisceaux cohérents sur la résolution de Springer ou la version Grothendieck. Alors quand on travaille avec des bimodules, on se retrouve avec des faisceaux cohérents sur deux copies. Et la condition d'Harish-Chandra fait apparaître l'équivariance et le fait qu'on a un produit fibré dans la variété de Steinberg. Mais c'est basé sur leur méthode, et c'est juste vérifier que tout se passe bien dans ce cas-là.
Pour les faisceaux pervers, quand on remplace L plus G par l'hydrophobie.
Oui, ben oui.
C'est quoi l'énoncé ?
Ici ? Ben, il n'y a pas vraiment d'énoncé en fait. Enfin, l'énoncé, c'est si on remplace les deux L plus G par l'hydrophobie, c'est ça l'énoncé en fait.
Il n'y a pas d'énoncé
pervers. Alors. En fait, alors, là, on a une équivalence au niveau des catégories triangulées. Il se trouve que, et c'est important pour ce que je vais raconter juste dans les dernières minutes, on peut décrire l'image de la T-structure perverse, ici et en un certain sens ici. Et l'image de la T-structure perverse, c'est pas du tout la T-structure naturelle. C'est une T-structure qui se décrit en termes de faisceaux pervers cohérents. Enfin, bref, on a une certaine description de l'image de la T-structure. Et donc, l'image des faisceaux pervers, c'est le cœur de cette T-structure, qui est un truc pas complètement explicite. Quoi. Enfin, qui se décrit pas en termes très, très élémentaires.
Quand le terme était à zéro, il y avait GM aussi. On parlait de tout GM équivariant.
Alors. J'ai dit que le GM, je l'avais oublié. Cette construction a une version en caractéristique pour les coefficients de caractéristique 0, j'aurais dû le mentionner aussi déjà, qui a été faite par Bezrukhavnikov il y a une quinzaine d'années, dans lequel il n'y a rien au milieu, mais on relie directement le côté de gauche et le côté de droite. Et alors cette équivalence n'a pas vraiment de version écrite pour les choses GM équivariantes, mais il y a des traces en tout cas du fait que la GM équivariance correspond au poids du Frobenius aux valeurs propres du Frobenius à gauche. Il y a certains énoncés précis qui expriment cette idée-là, et ça a un rôle important dans les applications que Bezrukhavnikov a pu faire de ces constructions. Alors, dans le cas de la caractéristique positive, les valeurs propres de Frobenius, c'est plus paramétré par Z, c'est paramétré par un groupe cyclique. Cet énoncé a plus de sens. Moralement, rajouter la GM équivariance devrait correspondre de l'autre côté à passer à une version graduée. Et donc, il y a des travaux qui vont vers construire des versions mixtes des faisceaux pervers aussi pour des coefficients de caractéristiques positives. Et en particulier, il y a des versions de cette construction qui font intervenir les motifs. Et si on a une bonne théorie comme ça, on peut espérer obtenir une version qui fait apparaître vraiment la GM équivariance avec des faisceaux pervers mixtes de l'autre côté en un sens approprié. Bon, le problème, c'est que c'est assez difficile techniquement de donner un sens à cette idée. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a considéré.
Tu penses aux constructions à la
Zeugel,
c'est ça,
quand
tu dis
les
faisceaux mixtes en caractéristiques
positives? Oui. Il y a des versions de Zeugel. Il y a des versions. Zeugel, c'est encore des coefficients caractéristiques positifs. Il y a des versions par Eberhardt et Scholbach qui, je crois. Permettent aussi de traiter des coefficients de caractéristiques positives. Et ce genre d'outils pourrait mener à des versions qui font intervenir la GM équivariance. Ça dépend pas du non. Alors de toute façon, donc à droite le P n'apparaît nulle part, et la catégorie de gauche, puisque tout est défini sur Z, ça dépend pas du P. Alors, je vais rapidement expliquer pourquoi on s'intéresse à ce genre, enfin, pourquoi moi je m'intéresse à ces choses-là. Donc, ma motivation principale pour étudier ces choses-là, ça vient des constructions dont j'ai parlé déjà en théorie des représentations. Des liens entre le point de vue qui nous amenait à ces questions-là et la relation entre ce point de vue qui nous a amené là et des conjectures antérieures qui étaient dues à Finkelberg et Mirkovitch. Donc c'est des conjectures qui datent de la fin des années 90. Alors, donc il y a deux conjectures, en fait. La première version, c'est pour les groupes. Et leur conjecture, c'était qu'il existe une équivalence de catégorie entre ce bloc principal REP0 de H et la catégorie des faisceaux pervers Iwari U et Q variant sur la Grassmann affine. Mais alors la Grassmann affine ici, j'ai envie de la donc, combinatoire. Ouais, pour la combinatoire, c'est mieux de considérer le quotient par L plus G à gauche plutôt qu'à droite. Et l'action de l'Iwari, je la vois comme induite par multiplication à droite. Et cette équivalence, donc les objets simples dans cette catégorie de faisceaux pervers sont paramétrés par les éléments du groupe de Weyl. Donc pour W, qui est un élément du groupe de Weyl affine étendue, qui est minimal, donc qui est de longueur minimale dans son coset W fois W. Et le IC associé à cet élément W devrait correspondre à l'objet simple de plus haut point W.0. Bon, et ces W-là, c'est exactement ceux tels que W.0 est dominant, donc ça tombe bien. Ça a bien un sens. C'est la ligne suivante. Ça va arriver. En fait, on peut dire un peu plus que ça parce qu'on a même une action de la catégorie de s'attaquer, donc la catégorie des faisceaux pervers sphériques, sur cette catégorie-là. Donc, tel que l'action de la catégorie des faisceaux pervers L plus G et Q variant. Donc on a une action par convolution qui est, qui est exacte, donc qui induit une action sur les faisceaux pervers, correspond à l'action, donc via l'équivalence attaquée, correspond à l'action des représentations de G-Tchetch via produit tensoriel avec le tir en arrière par le Frobenius de la représentation V. Donc on a un faisceau pervers F qui agit par convolution. Il lui correspond une représentation V de G-Tchetch. Je la tire en arrière et je tensorise avec cette représentation. Et voilà, c'est un des résultats classiques, plus précisément la formule de Steinberg, nous dit que ça va bien stabiliser ce bloc et ça se correspond. Ça doit se correspondre. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment H qui doit apparaître et pas G-Tchetch, parce qu'ici on a un tir en arrière par Frobenius. Donc cette conjecture, elle est intéressante notamment parce que elle explique entre guillemets la conjecture de Lustig. Alors la conjecture de Lustig, c'est une conjecture sur les caractères des représentations simples. Et la conjecture de Lustig fait apparaître des polynômes de Kajanowski associés, des polynômes de Kajanowski paraboliques, qui sont exactement les choses qu'il calcule, les dimensions des fibres des complexes de cohomologie d'intersection sur cet espace-là. Et donc, la conjecture de Lustig est très naturelle du point de vue de cette équivalence-là. Enfin, en fait, ce qu'elle dit. Ce que la conjecture de Lustig fait intervenir ces polynômes de Kajanowski qui calculent les dimensions des fibres des complexes de cohomologie d'intersection pour les coefficients caractéristiques 0. Et donc la conjecture de Lustig, en gros, au vu de cette équivalence, dit que les faisceaux pervers, quand on regarde les faisceaux pervers sur cette Grassmann affine, la dimension des fibres des IC pour des coefficients de caractéristiques 0 ou pour des coefficients de caractéristiques positives restent les mêmes. Enfin, sont les mêmes dans une certaine région. Et donc c'est éclairant de ce point de vue-là. Donc en fait, cette conjecture va bientôt être un théorème et c'est une application de cette équivalence-là. En fait, on peut obtenir cette équivalence-là à partir de celle-là et notamment en utilisant cette description de l'image de la T-structure perverse. Voilà, en restreignant cette équivalence à une bonne sous-catégorie, on obtient celle-là. Et alors, il ne me reste qu'une minute, donc je vais aller très très vite sur la deuxième. En fait, il y a une autre conjecture de Finkelmer-Mirkovitch qui concerne les agètes de Lie. Et ça, c'est un travail en cours avec Pramadachar et Gurbir Dhillon. Cette conjecture, elle fait intervenir la variété de drapeaux, les variétés de drapeaux semi-infinis. Et donc, il avait été conjecturé par Lustig et par Feigin et Frenkel que cette variété de drapeaux semi-infinis, la combinatoire des faisceaux pervers dessus, avait quelque chose à voir avec l'implantation de l'agète de Lie de H. Et Finkelberg et Mirkovitch ont proposé une conjecture explicite qui donne une relation entre ces choses-là. Alors le problème, c'est que les variétés de drapeaux semi-infinies, c'est compliqué à leur donner un sens. Les variétés de drapeaux semi-infinies, donc moralement, c'est le quotient de Lg par L plus T fois Ln, où N, c'est le radical unipotent du Borel. Bon, le problème, c'est que ce quotient-là, il faut lui donner un sens géométrique et ce n'est pas très facile. Mais en utilisant des techniques d'infinie catégorie, on peut donner un sens, alors pas à l'espace, mais à des catégories de faisceaux dessus. Et ce que, bon, essentiellement, Gurbir Dhillon a remarqué, c'est qu'à partir de cette équivalence, on peut obtenir une équivalence qui relie ces catégories de faisceaux à des représentations, enfin, en fait, à des catégories d'A et V. De UG modules. Fortement B et Q variant, donc de UH, pardon, UH module, fortement BH équivariant, donc équivalent pour le Borel. Donc c'est une version en caractéristique positive de la catégorie O de Bernstein-Gelfand-Gelfand. Alors c'est pas vraiment les objets dont Finkelberg et Mirkovitch avaient prédit l'apparition qui avaient plutôt à voir avec l'implantation de l'agète de Lie restreinte. Et on est en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est cette catégorie-là qui apparaît. Enfin, voilà, ce qui est sûr, c'est que dans ce formalisme, c'est cette catégorie-là qui apparaît naturellement. Et on essaye de comprendre un petit peu le lien avec la conjecture originale de Finkelberg et Mirkovitch, mais en tout cas, ça fait intervenir un lien, ça permet de construire des équivalences explicites entre certaines catégories de faisceaux sur les variétés de drapeaux semi-infinis et des représentations de la G2. Et je vais m'arrêter là. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.